on parlait des espèces de migration entre un continent et un autre continent d'artistes de voix. Et alors là, j'ai décidé de travailler en peinture. Donc il y a ce paysage frotté un peu à la Richter avec l'huile qui est glissée et qui évoque de très loin un paysage. Sur lequel j'ai dessiné un trait, un personnage, un profil un peu grec comme ça, un personnage avec des cornes, de la mythologie, avec en face une femme. Et donc c'est un peu l'homme et la femme, donc c'est un peu les deux continents, c'est un peu les deux, c'est un peu le passage de la
tente.
Donc de loin, de près le tableau est matière et platitude, de loin... On revoit le sujet, on arrive à voir cette espèce de dessin, et parfois, par moment, il disparaît. Et on est dans
le
genre.
C'est trois projections.
Oui, oui, celui-là,
c'est aussi un film, mais c'est pas une sorte de film.
Oui, il est dans un village.
Ça va être comme ça. Complètement
free. Moi, c'est le cinquième.
Mais ce qui est gai justement dans ce travail, c'est que ça permet de redécouvrir exactement ce que madame vient de faire. Evelyne, on regarde une pochette, on la redécouvre et finalement ça fait découvrir le travail original.
Oui, je ne connaissais pas ça. Voilà. Et j'aime beaucoup le graphisme.
Ben, grosso modo, la peinture sur la couverture d'un livre, ça permet au livre d'avoir une nouvelle existence. Au tout début, quand j'étais fort jeune, j'ai commencé à travailler sur des magazines comme celui-ci, où l'idée était de travailler dans la vitesse et d'avoir simplement une action page par page. Donc ici, j'ai pris une gommette rouge et des autocollants que j'ai coupés en triangle ou dont j'ai gardé le rectangle. Donc ça, c'était le tout début des actions sur les magazines. Donc je ne prenais pas encore de livre parce que j'avais encore le respect du livre. Le magazine, c'est quelque chose qu'on achète et qu'on jette, quoi. Donc l'idée, c'était de relire un magazine comme Newsweek ou un Elle. Ça, c'est une couverture de Elle. Où là, je n'ai fait que la couverture. Mais dès qu'on fait une peinture sur un objet, c'est en fait... c'est du papier, donc voilà, on a une œuvre, mais on a un objet aussi qui est le livre ou la revue. Quoi. Dans tout ça, ça date des années 80. Ce que vous voyez ici sont des documents qu'on m'a ramenés, parce que moi je ne possède plus rien. Ça, c'était du matériel que je devais utiliser au cours de perspective. Moi, j'ai fait Saint-Luc Tournai et Saint-Luc Bruxelles. Et très souvent, après les cours, je détournais le matériel que j'avais pour le cours pour en faire autre chose. Quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec ce matériel si je sors du cours? Bonjour. Installe-toi. Et donc, ça a donné une série, une multitude de livres où l'intérieur a été fait, mais les couvertures ont été complètement retravaillées. Avec un lien à l'enfance, au jeu. Par exemple, ici, ce sont des décalcomanies. Vous avez tous connu ces trucs où on frottait. C'était très amusant. Mais un adulte reprendre des objets d'enfants, des matériaux, des médiums d'enfants pour en faire une œuvre d'art, ce n'était pas très courant à l'époque. Et donc, le livre est devenu un endroit de jeu, enfin la revue, mais aussi d'anarchie. C'est-à-dire, je ne respecte pas ou je décide de déchirer si ça colle. Parce que quand on commence à peindre dans des revues, par exemple, je fais une couleur, ici c'était ce bleu-vert. Ce sont mes souvenirs d'il y a 30 ans, hein. Plus maintenant. Parfois ça collait, donc je devais faire plusieurs livres, parce que dès qu'on applique une couleur liquide, une couleur à l'eau, par exemple de l'acrylique, c'est de la colle. Donc si le livre fait ça, on a évidemment une impression, c'est en quelque sorte un monotype, donc c'est le début de la gravure. Mais... on ne peut pas aller plus loin, on doit attendre que ça sèche, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre bouquin. Mais sur l'autre bouquin, le problème est le même, on va peindre, on va faire une impression comme ça, il va falloir attendre que ça sèche. Donc pour avancer dans le travail qui finalement est dans la rapidité, donc ça va très vite, On prend un autre livre de livre en livre, on a vite une collection de livres, on a une multitude de livres. Et donc tous les jours, on ouvre tous les livres à une page, on travaille sur cette page et on attend le lendemain pour faire une autre couleur, une autre page. Donc c'est un exercice sur la vitesse et sur qu'est-ce que je peux faire par rapport à une photo, qu'est-ce que je peux faire comme action par rapport à quelque chose qui, dans le magazine, est lié à la rapidité. C'est quoi un magazine ? On tourne les pages, ça va très vite. La peinture, c'est tout le contraire. C'est une image fixe qui va rester fixe et qu'on va regarder au mur et qui ne va plus bouger. C'est tout le contraire de ça. C'est tout le contraire de la publicité. Et c'est pour ça que je voulais confronter la peinture à la fugacité et à la consommation de la revue qu'on jette après. Quoi. Après, les livres sont devenus des objets. Donc je parle des livres, alors des vrais livres, des romans. Voilà deux romans qui venaient de ma bibliothèque. Pourquoi ils sont devenus comme ça ? Dans les tableaux peinture-peinture, j'avais besoin d'outils. J'avais besoin d'outils pour... ça tient debout, ça devient un objet. J'avais besoin d'outils, donc j'utilise des palettes. Et cette palette est une forme de couteau qui permet de faire des frottements. Seulement, même si on achète 20 palettes, on est très vite à court parce que ces palettes sont pleines d'huile. Et donc, on passe son temps à les nettoyer. Pour éviter le nettoyage de toutes ces palettes, parce que finalement, au lieu de peindre, je nettoyais des palettes, j'ai décidé d'utiliser quelque chose qui pouvait ressembler à un outil pour frotter. Et donc, j'ai utilisé des livres. Alors, au départ, je prenais des livres que je ne disais pas, qui étaient pour me débarrasser, mais très vite, c'est un peu comme les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça s'accumule au sol, il y en a plein, et c'est de l'huile, donc c'est gras. Avec un livre de ce genre ou de ce genre, quand je suis sur une revue, ce que je fais, c'est ça. Je prends et je racle. Il y a la peinture sur le livre. Cette peinture coûte de l'argent et c'est beau, cette espèce d'amoncellement de peinture que vous voyez ici. C'est aussi bien les choses que j'ai frottées que ce qui est tombé. Alors il y a des choses qui tombent, qui sont ramassées, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Alors ça, c'est la même vitesse que ces livres. Je vous ai montré, voilà, à chaque page, il faut faire une action. Eh bien, se baisser, prendre la clope de peinture rouge, bleu, c'est la même action que agir sur un tableau, savoir où le placer. Le fait d'avoir fait beaucoup d'exercices dans des revues comme ça, mettre des points rouges, savoir où je vais le mettre, à la longue, ça crée une vitesse de réaction dans le tableau. La vitesse est très importante, la lenteur, c'est tout aussi important. Après la vitesse, il faut pouvoir regarder ce qu'on a fait. Et donc, à un moment donné, il y a arrêt. Les choses sont déposées au mur parce que tout un temps, c'est au sol et on ne sait pas bien voir au sol. Donc, il faut, je les remets au mur. Pourquoi ? Parce que le résultat final, c'est ça ou c'est ça. C'est-à-dire que nous serons en relation avec l'œuvre, entre guillemets. On va avoir un rapport frontal de l'œil par rapport au mur. Ce qui est très différent de ceci, de ceci. Là, on est dans le tableau. On est dans l'espace tableau. Et donc, le temps arrêté est le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Ce temps arrêté me permet tout simplement de regarder, de contempler, de jour en jour, d'observer. Et donc là, je suis en stand-by. Et donc, je passe à une autre pièce. Mais comme le sol est jonché de livres, de la matière de travail, il y en a beaucoup. Et donc, je passe à un autre tableau. Donc, je ne fais pas un tableau à la fois. Je fais plusieurs tableaux à la fois, plusieurs livres à la fois, plusieurs dessins à la fois. Je fais plein de choses à la fois. C'est comme quand vous conduisez, vous écoutez les radios et vous parlez parfois à quelqu'un. Il y a plein de choses qui se font en même temps. La suite de la construction du livre après l'arrêt, c'est un espèce de redémarrage suite à des lectures, beaucoup de lectures, beaucoup de livres, beaucoup de cinéma. Une idée peut surgir. Parfois, c'est aussi, je suis au volant de ma voiture et une idée surgit. J'arrive dans l'atelier, je redécouvre une des pièces et je sais à ce moment-là, parce que mon esprit est frais, qu'il faut du rose à tel endroit ou du mauve. Et donc, chaque redécouverte de l'atelier, chaque fois que je rentre dans l'atelier, j'ai un esprit qui revient à l'état zéro, et donc je peux reconstruire mon œuvre dans la journée. Et c'est comme un moteur qui chauffe, je fais des exercices de dessin, je chipote, parfois je range, et puis à un moment donné, ça démarre, et à ce moment-là, je suis dans le tableau. Voilà. Pour ces tableaux-ci, enfin, ces livres-ci, alors là, je vais parler de l'ensemble des livres. On doit s'arrêter là. Bonjour. Installe-toi.
Merci. Il y a encore une chaise.
Il y a encore une chaise là, si vous voulez. Et il y a encore une chaise ici, attends.
Il y a un divan.
Et il y a un psychiatre aussi, sûrement dans la salle. Tiens.
Ça va, c'est
bon. Ça va ? Pour cette œuvre-ci qui n'a qu'une couleur, ça s'appelle un monochrome. Bon, je sais que je m'adresse à des spécialistes, mais bon, je vais parler pour tout le monde. Très souvent, quand je prépare une couleur, cette couleur va se retrouver un peu partout dans l'atelier, pas toujours. Mais donc, c'est aussi... L'atelier est aussi une citation de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire que j'utilise le vocabulaire de l'histoire de l'art pour le réinjecter dans mon travail. Donc, ce que j'ai appris de la perspective de la Renaissance italienne, on va le trouver dans certains livres, comme celui-ci, par exemple. Ici, je veux travailler vraiment sur des effets de perspective. Ces effets de perspective, après, vont peut-être se retrouver dans le tableau. Il y a, dans les tableaux, il y a des effets de perspective. Enfin, il y a plein de façons de faire la perspective, par la couleur ou par la ligne. Ici, c'est beaucoup plus facile de faire un dessin sur un livre tout lisse que de retrouver du graphisme dans un tableau qui est rempli de matière, évidemment. Donc, il y a une impossibilité à faire la ligne parfois. Pourquoi est-ce que je parle de l'histoire de l'art ? Parce que dans tous les livres qui sont ici, il y aura une citation constante de tout ce qui fait l'histoire de l'art et de tout ce que moi j'ai aimé dans l'histoire de l'art, tout ce qui me touche. Quoi. Par exemple Matisse, par exemple Picasso, par exemple Collage, par exemple Ingres, par exemple Durer, mais aussi des contemporains comme Michel Frère, qui est cité là dans son propre livre, avec deux éléments qui sortent. Il faut savoir que j'ai eu un atelier avec Michel Frère, qui faisait aussi de la matière, qu'il est mort fort jeune. Mais dans le livre, j'ai gardé son bras, sa main, qui est quand même la chose la plus importante pour un peintre, et aussi son nom, Frère, parce qu'il était frère de peinture, mais il s'appelait comme ça aussi. Et Frère Vollier, parce qu'il est mort subitement, il est mort trop tôt. Il est mort à 38 ans, je pense. Alors, je parlais du monochrome. Le monochrome, comme tous les mouvements de peinture, se définissent souvent au moment de leur création comme la solution, l'aboutissement final de l'art. En fait, l'art, pour moi, ce n'est pas... j'ai inventé la solution à l'évolution de l'art comme une évolution technologique. Ah, on est arrivé à la fusée. Non, l'art, c'est chacun trouve quelque chose, sa réponse. Et la réponse peut être aussi pour les artistes contemporains d'utiliser, comme les anciens l'ont fait, avec la fameuse théorie « il faut copier les anciens », je réutilise tout ce que j'ai appris des temps anciens. Je vais essayer de le digérer. Et puis je vais réinjecter ça dans des livres ou dans des tableaux. Dans le cas du livre, par exemple ici, vous retrouvez le monochrome et aussi le geste. donc la peinture gestuelle de Franz Klein, le tag, l'écriture sur les murs. Et alors maintenant, dans les nouveaux livres, parce que ceux que vous avez vus, c'est des livres qui datent des années 84-85, je vais commencer à citer aussi tout ce qui est mon quotidien, les gens que j'ai rencontrés, le prénom des enfants. Je m'amuse à... Il y aura aussi des insultes. Tout ce qui n'est pas A peut peut-être se trouver dans un livre, parce que le livre, après, il est fermé. Alors pourquoi des insultes, pourquoi des images de guerre, pourquoi des images d'atrocités? Rarement dans un livre d'art on confronte l'art et par exemple l'histoire. L'histoire de la guerre, l'histoire de la souffrance. L'art c'est le contraire de l'horreur, de la torture par exemple. Mais si on confronte une image à un autre contexte, on fait un choc frontal. Un peu comme la matière peinture à huile contre une surface propre d'une couverture de livre d'art. Donc il y a des gens qui peuvent dire « Oui, c'est ça, vous n'avez pas respecté le livre. » Mais je respecte tout à fait le livre. D'une certaine manière, je fais une œuvre unique d'une pièce qui n'était pas une œuvre unique, qui était une multiplication, donc une édition. C'est, voilà, il y a 10 000 livres. Moi, j'ai un livre, c'est le mien. Et j'en fais une œuvre d'art qui redevient une pièce unique. Et donc, je fais mon travail, mais je sauve aussi le livre. Le livre est derrière. Comme tout à l'heure, madame, vous avez aimé ce livre de Sébastien Rosé. Et du coup, vous découvrez le travail de Sébastien Rosé par la couverture, alors que c'est... Et son travail est évidemment magnifique. Tous ces livres sont choisis parce qu'ils sont magnifiques. Voilà, ça c'est une image avec un tableau abstrait, et à côté de ça, vous avez des marines américains qui traversent un fleuve au Vietnam. Ce sont des images que j'ai vues quand j'étais enfant. Ici, le titre est AK-1220, et moi j'ai fait AK-47, qui est le fusil que les Vietnamiens utilisaient. Donc sur chaque page, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus faire quelque chose d'instinctif qui n'a pas de sens, c'est justement essayer de faire quelque chose qui a du sens, quoi. Mais vite. Donc il n'y a pas de... Le but n'est pas de faire le plus beau dessin du monde, je ne cherche pas à être Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Je vais simplement mêler le monde qui m'appartient avec les gens que j'ai connus, leurs prénoms, leurs enfants, les images de la télévision, et je vais envahir ce livre, qui, je le répète, n'est qu'un exemplaire parmi d'autres de cette édition, et je vais en faire un exemplaire unique. Mais le livre existe toujours, et il y a quand même une relation entre le fond, entre l'image imprimée, et le sujet. Ça, c'est l'automne, je ramasse des feuilles, je les mets dans mon livre, comme je ferai un herbier. Voilà, il y a des textes, il y a de la poésie, il y a des citations de Mantegna, parce que j'ai vu un magnifique tableau à Tours de Mantegna. Donc, c'est en quelque sorte des carnets de notes, des impressions sur des lieux que j'ai visités ou j'ai habité, voilà, l'UQB. Que dire d'autre? Par rapport à la collection qui est ici exposée, je n'ai jamais fait l'illustration du livre. Habituellement, les expositions avant sur les livres, je choisissais un titre pour sa poétique. Dans le cas des éditions de la Lettre Volée, je connaissais beaucoup d'artistes comme Xavier Noiret-Thomé, comme Robert Surmont, pour répondre à la question de madame tout à l'heure. Et donc je connais Damien Delépelère qui est là-haut, je connais pas mal d'artistes parce que voilà, maintenant j'ai bientôt 58 ans et donc je les ai croisés, j'ai vu les ateliers, j'ai vu Michel Frère, j'ai vu Philippe Denis, il y a des artistes qui ont disparu, il y a Steve Caspar avec qui j'ai pu travailler aussi. Donc ce sont tous des gens que j'ai côtoyés et donc c'est la même idée que les livres, je glisse ma vie personnelle dans mon travail, et je fais en quelque sorte de transformer mon souvenir ou l'existence de Georges Chaudet, qui sont toujours vivants, qui traversent très bien, et d'en faire une œuvre, quoi. Voilà. Sans la moindre prétention, évidemment, je ne cherche pas à dire que mon travail est meilleur que le travail en dessous. C'est autre chose, c'est une revisitation avec une autre façon de je vais me lever pour expliquer ici. Par exemple, ici, pour le Véronique Bergen, encre, ben, ça m'a suggéré d'utiliser de l'encre, forcément. Mais après avoir utilisé l'encre noire, en principe, ici, dans le vrai livre, dans le livre original, il y a ici des imprimés noirs qui ressemblent à des encres chinoises. J'ai simplement continué le dessin, et puis le portrait est arrivé un peu par hasard, parce qu'au départ, il y avait des personnages ici. Et la chose évolue. Je ne sais pas où je vais. Je commence le travail, je ne sais pas où je vais aller. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. L'idée se développe, et au fur et à mesure des jours ou parfois des minutes, parfois c'est très court, la chose se développe et arrive, quoi. Et quand je ne sais pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je m'arrête, je réfléchis, j'attends. Et à un moment donné, simplement par contemplation du sujet, par exemple celui-ci, L'orage en août, je précise que je n'ai pas lu tous les livres, hein. Mais L'orage en août, c'est un livre qui est passé du petit atelier où j'habite à l'atelier de peinture, qui est un atelier très grand où il y a énormément de matière vivante, je veux dire de matière épaisse, des matières des tableaux peinture. Et donc, ce livre a eu des taches. Pour moi, l'histoire de la peinture commence avec les taches. Donc, une tache, c'est déjà quelque chose, quoi. Donc, ici, la création de cette couverture s'est faite en trois temps. D'abord, j'ai appliqué ce livre contre un autre livre. Ensuite, j'ai regardé. C'était complètement raté, bien entendu. Ce serait pas, on ne peut pas faire une œuvre en faisant un acte aussi simple que de pousser et d'enlever, quoique parfois. Et ensuite, avec l'encre qui avait été utilisée pour d'autres livres, le pinceau étant toujours là, je me balade dans l'atelier qui est une pièce très très grande. Je vois le pinceau qui arrive près du livre et quelque chose surgit. Je ne sais pas expliquer alors maintenant d'où vient l'idée. Elle surgit. Ça, je n'ai aucune explication pour d'où vient mon imagination, si ce n'est les lectures, les films et les rencontres. Pour les dessins automatiques, finalement, ça, c'est les choses parmi les plus difficiles à faire. Il faut être très concentré. Donc, la technique pour ça, c'est ne pas avoir peur. La plupart des gens ont peur de dessiner. Ils ont peur de mal faire, parce qu'on est élevé comme ça. On doit bien faire, on voudrait bien faire, et quand on dessine, on essaye de bien faire le nez, et on se rend compte qu'on a été un peu à côté, et puis c'est pas tout à fait ça, et on n'arrête pas de se dire « Ah, mais c'est raté, mais c'est pas bon ». Non, on se vide la tête, et j'ai utilisé un peu un argument, une technique du professeur de Miro, qui était « on se promène ». Et puis les étudiants disaient au professeur, et Miro y compris, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas de se promener. Il dit, non, vous inquiétez pas, on se promène. Donc on se promène. À la fin de la journée, il rentre à l'atelier, il dit, mais on n'a rien fait. Si, on a beaucoup travaillé. Maintenant, asseyez-vous. Hein, mettez-vous devant votre feuille, votre livre. Prenez un pinceau, fermez les yeux, et maintenant vous dessinez ce que vous avez vu. Mais quand on ferme les yeux, on n'a pas peur de sa main. Et donc, on ne se dit pas « Ah, je suis à côté, j'ai raté, c'est pas tout à fait ça. » Non, fermez les yeux et continuez jusqu'au moment où je vous dirai d'ouvrir les yeux. On ouvre les yeux et parfois, on obtient ça. Mais le dessin, il est dans le cerveau. Hein. Quand, si vous fermez les yeux et que vous dessinez, vous allez faire des choses assez incroyables parce que le dessin, il est dans le cerveau. vous l'avez capté, quoi. Oui, oui, voilà. Les sept livres, on dirait un titre d'un film asiatique. C'est en lisant un livre sur Hokusai, qui pour moi est un des grands artistes de l'humanité. Moi, j'ai une passion pour la nature, donc j'avais vu dans une peinture ce dessin-là. Et donc, j'ai les sept livres, ce n'est pas ces deux fleurs, évidemment, ça n'a rien à voir. Et donc, l'idée, c'était de, hop, ça surgit, je vais dessiner, je vais reprendre ce dessin de Kusai avec un pinceau, et je vais le faire, mais comme ça, quoi. Et du coup, les sept livres avec ces deux fleurs, c'est très beau. Il y a une poésie qui surgit. Ce n'est pas l'explication du livre, ce n'est pas nécessaire, parce que mon intention n'est pas de faire l'illustration du livre, hein, je le répète, quoi. C'est simplement de faire surgir quelque chose. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est, je peux encore parler de tous les livres comme ça, c'est s'il y a des livres que vous voyez qui vous posent question, je peux répondre, évidemment, pour tous les livres, il y a une explication. Complainte du vieux mal. Il y a parfois un peu d'espièglerie dans mes dessins, parce que je trouve qu'il faut mettre un peu d'humour dans l'art qui est parfois si sérieux. Ici, le dessin, c'est un dessin automatique, mais pas au noir avec du blanc, un feutre blanc donc, qui ne s'arrête jamais. Il faut parfois choisir le bon outil pour faire le bon dessin. Quoi. Mais plus un outil est rudimentaire, et souvent il est meilleur. Quoi. Donc un outil simple, parfois mal débroussaillé. Donc il ne s'agit pas d'avoir des très beaux outils. Je pense qu'on peut faire déjà quelque chose avec ses doigts, comme les hommes primitifs ont fait de magnifiques dessins avec leurs doigts et sans doute des poils de bison. Quoi. Donc ici, l'idée du vieux mâle, c'était de prendre sa tête entre ses mains, et en fait, ce sont ses bras qui créent son cerveau. Quoi. Parce qu'en fait, nous construisons nos actions avec nos mains, finalement. Tout est construit dans nos mains. Quoi. Dans l'art, pour moi, dans l'art qui m'intéresse, j'aime beaucoup la photographie, évidemment, mais pour ce qui m'intéresse, moi, tout doit partir de la main. Et de l'irrégularité de la main, de ses ratés, de tout ce qui fait la fragilité de l'humain, tout ce qui n'est justement pas proche de l'appareil mécanique, tout ce qui fait que tout sera vu, la moindre chose sera décrite, quoi. Tout sera visible. Voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps je peux encore parler comme ça.
Merci.
Bien, alors, avant de céder la parole à Pascal, je voudrais faire un petit discours de bienvenue. Oui,
merci.
Nous devons remercier, non seulement Pascal, quelqu'un d'extrêmement spontané et généreux, et donc, voilà, on est parti sur les chapeaux de roue tout de suite. J'ai prévu tout un petit discours, donc...
Bah, c'est parfait, on va le faire.
Mais c'est très très bien, c'est très bien. Voilà, quel que soit le chemin qu'on prend, on arrive toujours à destination, et c'est une belle destination. Donc je voulais juste vous remercier effectivement quand même d'avoir pris la peine de venir nous rejoindre, écouter Pascal, découvrir cette très très belle exposition de livres, de la lettre volée initialement, mais que Pascal, ce grand recouvreur,
Et ça reste de la lettre volée.
Ça reste.
C'est un peu volé, c'est un peu volé.
Détourné, voilà, mais aussi avec une plus-value extraordinaire, quoi. Voilà, c'est magnifique travail. Peut-être un petit mot de présentation, d'explication aussi, parce que c'est vrai que. Donc on fait beaucoup à lettre volée de livres avec des artistes. On a un travail de compagnonnage, parce qu'avec. De nombreux artistes ici qui vivent à Bruxelles, puisque Bruxelles est un carrefour aussi, où de nombreux artistes de plein de nationalités se retrouvent, et donc c'est un lieu très frais, très fécond de ce point de vue-là. Et donc quand on fait un livre d'artiste, bah, s'il y a une exposition dans une institution quelque part, on en est ravis. Sinon, on essaye au moins en tout cas de permettre aux gens de voir le travail de l'artiste. Ici, on a, je dirais, un petit peu pris les. Comment dire. Anticiper les choses, puisque Pascal travaille sur les livres est déjà existant dans la lettre volée, mais c'est aussi dans l'intention d'en faire un petit livre. Mm-hmm. Donc, donc ce travail va à son tour donner lieu à un autre livre que tu pourras,
voilà, si
tu
veux. Voilà, des livres créés.
Voilà, réinterprétés par la suite. Parce que la lettre volée va fêter ses 25 années d'existence. Mm-hmm. Et voilà, c'est pas mal quand je pense.
C'est un autre.
Voilà, et à cette occasion, donc, on va faire un ouvrage où on voulait revisiter aussi, justement, remettre à l'honneur tous les livres parus. Et bah, quelle meilleure façon de faire ça que de demander à un artiste, justement, de prêter son concours. Donc on va faire ça avec Pascal. Et alors, c'est peut-être un petit scoop, mais Evelyne Fischer, qui a déjà présenté aussi les livres de l'aide volée, qu'elle aussi, à sa façon, réinvente,
oui, hein,
et commente, elle, parce qu'elle est dans les livres, pas seulement sur les couvertures. De façon parfois extrêmement, avec un regard assez acéré, je peux dire. Donc voilà, donc Evelyne aussi sera mise à contribution pour ce livre qui va donc consacrer les 25 ans d'existence de l'aide volée. Alors on fait aussi depuis plus de 15 ans maintenant aussi donc ces expositions à l'occasion de sorties de livres. Et une exposition, c'est un instantané, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans une expo, c'est un moment du travail d'un artiste qui est figé, effectivement, parce que voilà, c'est accroché, hein, c'est, ouais. Voilà, c'est comme des papillons sur un mur, et, ouais, et voilà. Et on n'a pas de temporalité, c'est-à-dire que la temporalité de l'exposition, elle annule tout ça, elle efface tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on trouve important aussi systématiquement de demander à l'artiste de nous réinscrire en quelque sorte son travail dans une durée, dans une temporalité, la temporalité de la création, la temporalité d'une démarche aussi de la vie, parce que voilà, ce qui aboutit à parfois une petite chose en apparence, c'est des années de maturation, c'est une maturité en soi. Et donc ça, on peut le faire justement qu'en racontant alors le film, puisque je parlais de l'instantané, voilà, donc Pascal, comme les artistes qui l'ont précédé ici, donc c'est prêté au jeu et merci beaucoup. Voilà, alors en plus, je connaissais pas mal de choses, j'ai eu l'occasion évidemment d'assister progressivement à cette réinvention de ces bouquins. Mm-hmm. J'ai découvert aujourd'hui que c'est pas seulement des livres objets, c'est aussi des livres outils.
Oui.
Je ne savais pas que tu te servais de mes livres pour raquer la peinture et pour. Mais c'est intéressant, les outils.
Je savais que j'en disais trop.
C'est intriguant. D'ailleurs, du coup, maintenant j'ai envie de voir à quoi ressemble ta bibliothèque.
Ah bah oui.
Et voilà. Et puis aussi, merci aussi d'avoir permis aux historiens de l'art de disposer maintenant d'une nouvelle technique aussi infaillible. C'était un peu enfoncé, tu m'as appris ça. On peut enfoncer le doigt dans la peinture
pour établir
la datation de l'heure avec exactitude. Oui, oui. Tu m'avais expliqué qu'il fallait 2 ans, 3 ans pour...
Un an par centimètre de profondeur. Donc 1 an de séchage pour 1 centimètre de matière en peinture. Donc pour les gros tableaux, pour celui-là, il a fallu quelques années. Quoi.
Allez, donc j'avais juste une petite question qui m'est venue justement à la fin de ton intervention, et qui pourtant je crois est évidente, c'est est-ce que voilà, le fait justement d'intervenir sur des livres comme tu le fais ici, c'est pas aussi d'une certaine façon laisser libre cours à ton désir de dessin, tout simplement.
Parce oui, que, bien sûr.
Que, voilà, tout le monde fait ton travail de peinture, de matière, etc.
Oui, bien sûr.
Et moi je sais que tu dessines, mais on n'a pas toujours l'occasion de voir ce travail-là.
C'est-à-dire que c'était surtout le désir de retrouver du sens au dessin et écrire autour d'un titre. Je trouvais ça formidable parce que on a un bout de phrase. Par exemple, l'émotion du paysage, c'est très beau, déjà, ce titre est très beau. Arriver avec de l'encre autour de l'émotion du paysage et faire un paysage, un paysage, c'est une tâche, hein. ça permet d'intégrer le mot et l'image. Et ça, c'est assez neuf, quoi, de pouvoir mettre dans le dessin un titre. En fait, Xavier Noiret-Thomé ou Robert Surmont, ils deviennent le titre du dessin ou de l'œuvre. C'est très facile de... Voilà, ça crée un double titre, d'ailleurs. L'œuvre plus le sujet, quoi. Ce livre-là, peut-être qu'on ne le voit bien, pas bien d'ici, mais le titre de de livres, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, trop beau pour être vrai, c'est... Enfin, si vous connaissez ce livre, c'est quoi? C'est un artiste qui a peint, qui a repeint un livre existant, qui a redessiné un livre existant, un livre sur Matisse, et qui a même redessiné et refait à l'aquarelle les écritures de ce livre. Donc c'est comme si je reprenais ce livre-là et je refais tout l'intérieur, mais au pinceau. Les lettres, bon, dans ce cas-ci, il y avait des tableaux de Matisse qui n'étaient pas simples, des dessins de Matisse qui n'étaient pas simples, et il a dit, voilà, j'y vais et j'accepte toutes les imperfections de mon propre dessin. C'est Damien de l'Épaulaire. Alors, trop beau pour être vrai, c'est un peu un clin d'œil, puisque ce n'est pas son portrait, parce qu'il est trop beau pour être vrai.
Oui, c'est moi, non ? C'est mon portrait, non ?
Oui, oui, bien sûr.
Je vais l'appeler tout de suite. Voilà, donc si vous avez aussi à votre tour des questions,
oui, si vous voulez
réagir, voilà, enfin, Pascal. Donc.
Pour les couvertures ou quoi que ce soit.
Non, moi je voudrais remercier, comme tout le monde, je suppose, parce que c'est vraiment très très intéressant. Et je trouve que c'est une nouvelle manière de présenter l'art. C'est vraiment l'art en mouvance, qui est tout sauf figé. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça allie l'écriture et le dessin. Et je suis sans mots.
Merci. Oui, l'idée c'est d'être très ludique. Donc d'avoir de nouveau cette légèreté et cette facilité de s'autoriser à faire les choses. Quoi. S'autoriser à faire les choses. Donc vraiment, c'est un espace de liberté, mais complet. Quoi. Et retrouver ça, c'est une vraie respiration. Moi, ça me permet après de retrouver de l'énergie pour aller dans les tableaux qui ont... C'est un autre travail de couche et de superposition à cause des temps de séchage, qui fait que ça redynamise même des solutions que je peux trouver. Je peux les trouver dans des livres parce qu'il n'y a pas d'enjeu dans un livre. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, donc cette fameuse peur de rater, si vous ne l'avez plus, ça ouvre les portes.
Tu parles de liberté, mais alors je voulais quand même te demander aussi, parce que tu disais que tu connais la plupart des artistes dont tu as repris les livres, est-ce qu'il n'y a pas là quand même une sorte de soit d'intimidation, soit de réserve?
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, les personnes qui sont les plus proches de moi, pour moi, c'est plus difficile pour pouvoir peindre dessus parce que je les connais, ça devient les amis à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile que si c'est un parfait inconnu où on peut y aller, on a...
Mais ça veut dire qu'il y a une dimension presque sacrilège ou...
Oui, il y a un peu, il y a bien sûr une dimension du sacrilège et un peu dadaïste de transgresser. Quoi.
Il peut y avoir aussi une complicité au fond.
Et il y a une complicité, oui. Il y a souvent des clins d'œil. Enfin, j'aime bien cette formule-là parce que le travail n'est jamais dans l'agressivité, je ne cherche pas à détruire le travail de la personne.
C'est pas le caractère de Pascal, de l'agressivité.
Mais ça peut être interprété, on connaît aussi la susceptibilité de
certains
artistes.
Oui, pour l'instant, ça c'est vrai que ça s'est bien passé, parce qu'on m'a dit, est-ce que les gens ont accepté... Oui, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre livre. Hein. Si vous l'avez acheté ou si vous le possédez, c'est à vous, quoi. D'ailleurs, beaucoup de personnes que je croisais dans les bouquineries qui venaient vendre leurs livres, qui me disaient c'est, oui, ce que vous faites, ça ne va pas parce que vous ne respectez pas le livre. Mais je dis mais vous les vendez pour vous en débarrasser. Vous ne respectez pas le livre, vous les jetez.
Vous les jetez. Vous les aimez. Mais surtout, ça en fait une œuvre d'art. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont certainement été honorés.
J'aime beaucoup aussi la symbolique du livre qui est finalement. Un des matériaux, un des médiums par lequel le savoir se transmet, par lequel nos parents nous ont transmis le savoir. J'ai fait des petites sculptures à la mort de ma mère avec ses livres. Ces sculptures s'appelaient les livres de ma mère parce que finalement, tout ce que ma mère m'avait donné comme livre, c'était une vraie transmission. Et chacun transmet ce qu'il a envie. Il y a des gens qui ne transmettent pas de livres. Il y a des gens qui ne transmettent rien. Je pense que la transmission, c'est très important. surtout au moment où le livre devient peut-être numérique, etc. Donc on a, comme pour le disque 33 tours ou d'autres objets, il y a des objets qui vont disparaître, mais qui ont été importants. Et qui vont, je pense, qui vont rester, qui vont avoir une fonction très symbolique, quoi. Par exemple, les... Oui. En tant qu'objet, déjà. Hein. Même si on a des espaces plus petits, qu'on ne sait pas mettre des immenses bibliothèques, je crois qu'il serait important de conserver, comme dans ce film de Truffaut, que vous connaissez peut-être, Fahrenheit 451, où le monde arrive dans une société fasciste qui, un peu comme sous Hitler, on décide de brûler tous les livres qui peuvent perturber l'ordre établi. Et donc, la résistance se fait, chacun apprend un livre par cœur. Et chacun devient un livre.
Mais ce qui m'étonne, quand je suis rentrée ici, je me suis dit, comme c'est vivant. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et en fait, quand tu expliques comment ça se passe, c'est une explication aussi du vivant, puisqu'il y a tellement d'interactions entre toi, ce que tu vis et ce que tu dépouses.
Oui, je voulais aussi... Quand je fais l'expo, à un moment donné, il y a des périodes où, par exemple, je fais ces encres, à un moment donné, je fais des dessins. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même déjà fait pas mal d'expos. Et je commence à monter mon exposition dans ma tête en disant, il y aura des dessins légers, il y aura des peintures matières, mais pas trop, je ne veux pas faire que ça, parce que sinon, ce serait arrivé avec des chars d'assaut. Donc, il y aura des collages avec des transparences, il y aura de la légèreté et il y aura... des travaux plus denses, plus chargés. Et donc, au fur et à mesure que je vois les livres s'accumuler, s'amonceler dans l'atelier, je dis, tiens, il y a un manque de ça. Mais c'est un peu comme de la cuisine, il manque de sel, il manque de poivre, il y a quelque chose qui ne va pas aller dans le spectacle, il y a une partie des personnages qui ne sont pas encore là. Et donc, il y a une espèce de petite musique qui doit se créer après, pendant qu'on installe, et ça je remercie Natalia et Daniel de m'avoir aidé à... Parce que comme ils connaissent bien leur espace, quand on fait une exposition, c'est aussi une relation avec les gens qui nous accueillent et qui nous transmettent un peu leur savoir sur leur espace. Parce que le mot espace est lancé, la peinture c'est aussi un espace, c'est essentiellement un espace. Donc c'est un espace mental, c'est un espace de perspective, c'est un espace de couleurs. Tous ces espaces s'entrecroisent et créent, j'allais dire, de l'affect. Ça crée... En fait, au départ, ce ne sont que des tâches, donc comme les bêtes tâches pour ce livre avec cette tête de petit chat qui a l'air d'être ridicule, mais qui est charmante. Quoi. Le livre de tout en haut, là, avec Stéphane de Jaeger, ce tableau était un peu raté. Et puis, il a fallu que j'attende que la grande vague de matière sèche pour pouvoir passer au-delà. Et à un moment donné, vraiment, je veux dire comme c'est, je m'en suis foutu complètement de rater ou de réussir, mais je savais qu'il manquait quelque chose. Quoi. Le tableau n'était pas encore là. C'était juste une tâche. Quoi. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui doit sortir de soi. Et qui est du domaine de je travaille avec ma perception et mon instinct et plus avec mon cerveau, j'allais dire avec mon cerveau droit, c'est peut-être gauche, hein. Mais je sors de ce qui est connu pour aller dans un inconnu. Et quand un tableau me séduit, c'est parce que ce que je vois dans ce tableau, je n'arrive plus à le contrôler, mais il me séduit. Voilà, c'est une image qui continue de me séduire tous les jours. J'ai plus d'usure de l'image. Or, j'ai une usure complète dans ces premiers magazines. Parce que bon, le travail qui a été montré ici est un travail qui a été montré au Japon à l'époque. Quand je suis revenu du Japon, j'ai eu un écœurement de l'image industrielle, pop. Je ne pouvais plus supporter cette image qui est une image de consommation. C'est une image, c'est pas une vraie image. C'est un moment qu'on jette. C'est destiné à être racheté. Or, le tableau, c'est pas racheté. C'est une image fixe dans laquelle quelque chose se crée tout le temps. C'est vivant. C'est plus de la mort.
Et quand vous dites que c'est une image fixe, en fait, c'est pas tout à fait exact, en ce sens que quand je suis sûre, même quand toi tu regardes, tu vois des choses que tu n'avais pas découvertes.
Oui, 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 bien sûr. Donc, oui, dans ce sens-là, ce n'est pas fixe, mais ce n'est qu'une seule image. C'est ça que je veux dire, ce n'est pas un film où les images se suivent, on est dans le mouvement. Ça, c'est une image, une fois que vous l'avez exposée et qu'une personne est partie avec, elle est arrêtée dans le monde, même si elle continue de vivre effectivement intrinsèquement. Donc, à l'intérieur de l'image, il y a une dynamique. D'ailleurs, la composition, c'est ça. Très souvent, quand je donnais un mini-cours sur la couleur ou sur la peinture, je parle souvent des blancs, parce que dans une image, on doit pouvoir rentrer dans une image, on doit pouvoir en sortir. Et donc, même dans un monochrome, il y a une poésie. Tous les monochromes ne sont pas réussis. Donc, c'est pas on prend un pinceau et on fait une couleur. Il y a une surface, il y a une lumière, il y a les matériaux choisis, et il y a l'épaisseur. L'épaisseur, avoir une feuille de papier blanc et un bloc de papier blanc, je vous assure que ce n'est pas la même chose. Je prends souvent l'exemple de l'orange. Pourquoi la matière dans mon travail? Si vous prenez une balle orange et exactement la même couleur que cette balle orange sur une orange, le fruit orange, vous savez très bien où est la balle et où est l'orange. En fait, c'est la matière, c'est la lumière sur l'orange qui fait que votre cerveau sait que c'est un fruit. Donc, sur un tableau, si je travaille sur je vais dire le mot épiderme, mais sur cette surface, je peux vous dire plein de choses. On est loin du tableau lisse avec une grosse couche de vernis de nos parents, quoi, qui sont des tableaux magnifiques, indéniablement, mais bon, moi, j'ai eu envie de chipoter. Je suis un peu comme... je lis un livre sur Renoir qui prétend que moins il y a de technique, mieux c'est. Plus il y a des choses mal faites, mais bien pensées, et mieux c'est, quoi. Donc il dit, trop de technique, trop de très bons matériels donne des très mauvais résultats. C'est pour ça qu'il pense que le cinéma était un peu en décadence, quoi. Il dit, les premiers films noir et blanc sont merveilleux parce qu'on invente tout.
Papa de Gustave.
Oui, il y a de Jean Renoir.
J'allais vous dire que pour les enfants, c'est une source d'inspiration si merveilleuse.
Oui, tout à l'heure, il y a...
Et en fait, avec ODR, donc cette année, il y a l'exposition au Centre culturel, et on a des groupes d'ateliers pour les enfants.
Ah, c'est chouette, ça.
Et donc, cette année, je me disais, parce qu'on anime ça tous les week-ends et en semaine, ce serait une source d'inspiration merveilleuse pour les enfants de pouvoir faire ce genre de choses.
Volontiers, moi, je veux bien participer.
Si vous êtes d'accord qu'on reprenne...
Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait.
La source de cette idée.
L'art, c'est à tout le monde. Hein. Les techniques sont à tout le monde. Rien n'appartient à qui que ce soit dans le domaine de l'art. Les techniques sont faites pour être utilisées. Une fois qu'elles sont inventées, la peinture à l'huile, tout le monde a utilisé la peinture à l'huile parce que c'était magnifique, quoi. Donc, il y a plein d'inconvénients. Mais il y a plein d'inconvénients à la peinture acrylique qui sèche le lendemain et qui fait des taches aussi indélébiles que l'autre. La peinture, ce ne sont que des taches pour moi.
Moi, je trouve quand on parle du travail avec les enfants, on explique toujours aux enfants le côté sacré du livre.
En fait, oui. Souvent. Oui, c'est vrai.
Et si on va faire juste l'inverse, on va leur dire oui. Mais non, vous pouvez commencer.
Oui,
il faudra. Alors, on a l'impression qu'on leur a inculqué du sacré du livre. Oui. Il y a une espèce de contre-leçon.
Oui, évidemment, tout ça, c'est parce que c'est dans le cadre...
Ça prend tout et pas.
Ça reste quand même dans le cadre d'une éducation. Je pense que vous avez tous eu des enfants qui, un jour, ont dessiné sur les murs. Bah oui, c'est vrai que les miens ont fait la même chose et le psychologue de l'époque a dit, mais c'est normal, vous avez des travaux partout, ils font la même chose.
Oui, et justement, je l'ai dit, non, c'est parce que moi, j'ai le souvenir aussi avec mes enfants, quand vous ne commencez pas à colorier partout dans les livres, parce que vous êtes...
Je crois que l'idée serait de bien leur expliquer que ce sont les vieux livres qu'on va ramasser dans les... quand on jette aux objets qu'on prend. Ou...
Oui, mais c'est
ou que c'est un moment où on fait ceci. C'est le moment consacré à ça, pas en dehors. Je crois qu'il faut apprendre le respect du livre, mais il y a un moment où, voilà, avec ça, on va faire ça, ce moment-là. Après, c'est fini. D'ailleurs, d'habitude, après, ils n'ont plus envie.
Le sacré du livre, c'est pas le fétichisme du livre.
Non, non, oui, voilà. C'est le fait de respecter un livre. Oui. Moi, je sais que, par exemple, nos enfants, on leur apprenait toujours à ne pas ouvrir complètement le livre, à ne pas le craquer, ou il y a un côté... respect du livre en tant que tel. Et donc, il y a un côté paradoxal quand on dit, allez-y.
Oui, oui, oui. Et je dois dire que les tout premiers ne sont pas... ces toutes premières revues, qui sont des revues, donc là, on se dit, oui, là, on peut y aller. Puisque... Mais d'une certaine manière, c'est beaucoup plus fort dans un beau grand livre d'art, magnifique, ouais. Parce que là, il y a c'est interdit, il est là, mais en tout grand, quoi. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. Si.
Non, ce qui est extraordinaire chez toi, Pascal, c'est que tu ne te sens pas, disons, guidé par le titre d'un livre.
Non.
Ici, c'est la preuve, d'ailleurs. Tu as tellement de livres de
genres
différents. Je suppose que tu as fait toute la collection de Daniel.
Presque tout. Il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup.
Daniel, plusieurs fois.
Qui est énorme. Qui est énorme. Donc, et là, tu t'es prêté à ta...
Oui, c'est d'ailleurs un tout autre chemin que celui que j'avais pris au début. C'est-à-dire que je choisissais un livre en fonction du titre. Là, la collection était proposée. Il fallait faire... je devais faire avec la collection. Donc, j'avais plus le petit switch du début qui disait « Ah, ce titre-là, je... »
Mais c'est là justement où je voulais en arriver.
Oui.
Parce que, en parlant de cela, je pensais à des collègues à toi, disons, qui ont fait le même... qui font le même...
Mais qui sont
trop omnibulés par... Bon, ils vont chercher des livres où le titre leur rappelle certaines choses, où ils veulent à ce moment-là faire quelque chose autour du titre. Je ne vais pas citer de nom, tu vois qui je... Il y en a plusieurs. Tandis que toi, tu fonces, comme tu le dis toi-même, tu fais tes bêtises, tu fais tes...
Oui, je dois dire qu'au tout début... Pour être tout à fait franc, j'ai quand même un peu paniqué en me disant « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces livres que finalement je n'ai pas vraiment choisi ?» J'en avais quand même fait quelques-uns. Hein. Donc il y avait déjà eu il y avait déjà une petite ouverture. Et le premier que j'ai fait, c'est le noir qui est là avec le personnage, avec cette espèce d'aile blanche à l'arrière. Et j'avais quelques feutres japonais. Un feutre, je ne sais plus quelle marque, ils sont de l'autre côté dans le petit atelier. Enfin, on a recréé un petit atelier ici à côté. Et donc, comme le fond était noir, qu'il y avait ce personnage, vous savez que ce livre parle en réalité des gens qui vont voir des expos ou des très belles cathédrales ou des magnifiques expositions à thème, et qui sont là avec leur appareil photo et qui regardent des expos avec leur appareil photo. C'est un livre de photographe sur les gens qui photographient. C'est bien celui-là. Et bien donc, j'ai embranché sur ce premier livre. J'ai démarré avec ce feutre blanc. Et puis c'est parti. C'est parti. C'est parti comme une dentelle et la chose a surgi. Le plus difficile, c'était, voilà le livre initial. Ce disque jaune pétant qui m'a créé plein de problèmes parce que j'ai essayé de solutionner ce jaune. Et finalement, si on sort le disque de sa pochette, on verra qu'ici il est jaune. Et si je prends le livre qui est là, le disque qui est dedans, il est peint de différentes façons. En fait, je pourrais tourner le disque et il y aurait d'autres variations sur cette pochette. Ah, je vous montrerai tout à l'heure.
Ça, c'est le jaune Kodak. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est
oui.
Le jaune Kodak. C'est un des appareils réflexes, instamatiques, etc.
Ah, c'est ça.
Voilà, c'était justement le travail effectivement du photographe qui regarde les gens, qui se livre une sorte de procession, de liturgie dans la, à Saint-Pierre à Rome.
Voilà, c'est ça.
Et donc la concurrence de la lumière sacrée et de du numérique, justement. Mm-hmm. Voilà, et on voit effectivement des gens qui photographient, qui se mettent dans des poses, comment dire, presque religieuses, mais pour une photo.
Oui, c'est ça.
Ils agenouillent, etc. Mais c'est, voilà.
Tout le monde photographie.
De sacré et de... Et comment dire, de logique touristique,
oui.
Ce qui intéressait le photographe ici.
Et dans le livre, ce qu'on sent aussi, c'est que les gens photographient pour voir après, alors qu'ils sont là.
Oui, c'est vrai.
Donc ils n'auraient pas besoin d'appareil photo, puisqu'ils sont là. Donc, alors, d'accord, le souvenir, mais d'habitude, ils font ça, puis ils passent à autre chose, et en fait, ils n'ont pas du tout regardé. Ils regarderont après les photos de ce qu'ils ont vu en vrai, pour bien voir, ou pour mieux voir.
Ou pour reconnaître.
Ou pour reconnaître
ce qu'on avait regardé.
Et surtout pour montrer aux autres. Ce n'est pas toujours négatif, parce que quand j'étais au Japon, ils ont expliqué qu'ils avaient tellement peu de jours de congé que ces jours de congé, je crois que c'était 3 par an. Donc après 10 ans, ils avaient 30 jours. Et la fameuse blague sur « oui, on a vu des cartes de Japonais qui couraient partout », mais oui, ils ont travaillé 10 ans pour avoir 30 jours, et eux, ils mitraillaient tout pour pouvoir effectivement... profiter du séjour, et donc ils font
années,
voilà, les 10 prochaines années, dans toutes les maisons où on visite, on a des albums avec la Tour Eiffel, enfin tout Bruges. J'ai vu Bruges des quantités de fois au Japon, alors que bon, j'étais très loin de Bruges.
Bien, bah écoutez, si c'est une question formelle, enfin, il peut y avoir des questions après.
Vous pouvez me poser des questions après. Si
je vous invite peut-être à regarder encore une fois peut-être l'exposition,
oui.
À prendre un verre également. Parce que, voilà,
Je suis très intéressée par lui, si vous voulez.
Oui, je voulais.